Alors bonjour et puis bienvenue à chacun, peut-être il y en a qui nous rejoignent. Tout à l'heure vous étiez déjà une centaine à regarder le culte, alors bienvenue encore pour ce temps spécial. Alors oui, je vais vous parler de l'espérance chrétienne, du retour de Jésus. Et puis je me suis posé cette question, mais où va le monde? En préparant déjà il y a quelques semaines, et quelle est notre espérance? Plus les jours passaient, plus je me suis dit, mais finalement ces questions résonnent tout d'un coup avec plus de pertinence. Nous sommes face à de nombreuses incertitudes, et c'est vrai que ça commence à être difficile d'anticiper qu'est-ce qui va se passer ces prochaines semaines. Quand est-ce qu'on pourra de nouveau se réunir ici, dans cette salle de culte? Quand est-ce que les enfants retourneront à l'école? Quand est-ce qu'on pourra partir en vacances? Il y a plein de questions qu'on ne sait pas pour le moment. Face à ces incertitudes, quelles sont vos stratégies? Est-ce que peut-être vous lisez régulièrement les journaux pour vous tenir informé des dernières recommandations? Est-ce qu'il y a quelques semaines, vous disiez encore, mais peut-être finalement, ce n'est pas grand-chose, cette petite épidémie, c'est un petit virus. En Suisse, il y a peu de décès, tout va bien. Est-ce que vous suivez les recommandations de l'OFSP et puis que déjà, depuis quelques temps, vous restez chez vous pour vous protéger? Est-ce que vous vous préparez peut-être même au risque d'être contaminé, puis vous avez fait aussi des réserves alimentaires chez vous? Est-ce que peut-être vous êtes malheureusement mais déjà en quarantaine? On pense aussi à ceux qui sont malades. Et moi et aussi mes collègues avec David, avec Francesco, on aimerait vraiment aussi que vous puissiez nous tenir informés, si c'est le cas, qu'on puisse aussi vous soutenir, qu'on puisse prier pour vous. Chacune de ces stratégies, finalement, elle a totalement du sens. Et puis, c'est important aussi de pouvoir faire attention, de pouvoir s'adapter. Mais c'est vrai que désormais, quel que soit notre âge, vaut mieux rester le plus possible à la maison et puis éviter les relations sociales. Mais comment notre foi en Dieu peut nous aider à traverser cette période? Quelle est notre espérance en tant que chrétien? Guy Gentizon a déjà parlé la semaine passée de l'espérance au sein de l'épreuve. Il nous a donné l'exemple de Paul et Silas qui ont été arrêtés, qui ont été mis en prison. Et que pendant la nuit, ça ne les a pas empêchés de louer Dieu, de le célébrer, de se réjouir. Et tout d'un coup, là, quelque chose s'est passé, il y a eu un tremblement de terre. Et ils ont profité de cette occasion pour partager leur foi, partager leur espérance à ceux qui étaient là, aux geôliers. Alors nous aussi, on peut se demander, mais comment être des témoins de cette espérance dans ces temps difficiles? L'espérance chrétienne. Notre espérance, elle est fondée sur une personne, comme nous le rappelait aussi il y a deux semaines David, c'est sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui qui nous a rachetés de la mort et du péché, c'est lui qui nous a donné une vie nouvelle. Car toute vie, finalement, elle est d'abord marquée par le péché. Nous naissons pécheurs et dans nos cœurs, malheureusement, il y a le mal, il y a l'égoïsme, il y a la convoitise, il y a toutes sortes de choses qui nous conduisent à pécher. Et puis c'est vrai, on peut essayer d'être les meilleurs possibles, on peut essayer de faire des efforts, de donner même tous nos biens, mais ça ne changera pas notre condition, ça ne changera pas non plus notre condamnation. Quelque part, on est tous appelés à mourir pour le prix de notre péché. Sans Dieu, finalement, nous sommes tous condamnés. Et nous ne pouvons rien faire pour échapper à la mort. On peut être très riche, intelligent, généreux, mais ça ne va rien changer. Et puis, comme on le sait, notre péché nous sépare aussi de Dieu. Nous sommes même incapables nous-mêmes de nous rapprocher, de nous réconcilier avec Dieu. Mais heureusement, Dieu a trouvé lui un moyen de nous délivrer. De nous délivrer de la mort, de nous purifier et de nous réconcilier avec Dieu. Il nous a donné celui qu'il aimait le plus, Jésus-Christ. Son Fils unique qui a choisi, qui a décidé de mourir à notre place. Alors nous sommes, oui, sauvés par la grâce, par le sacrifice de Jésus. Et notre salut, finalement, il est déjà là, par la foi. Mais il sera vraiment complet, total, quand Jésus reviendra. Et c'est pour ça qu'on peut l'attendre avec joie. Quand Jésus sera là, ça sera complètement différent. On sera dans la joie, dans la paix. On sera dans l'amour les uns avec les autres. Et puis, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus d'épreuves, il n'y aura plus de souffrances, il n'y aura plus de larmes. Nous serons totalement libérés du mal. Le retour de Jésus, c'est notre plus grande espérance. Jésus a dit qu'il reviendrait. Et puis il a dit à ses disciples dans Jean 14 « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus revient. Jésus reviendra, et il reviendra de manière visible. En Apocalypse 1,7, il est dit « Tout œil le verra ». Il reviendra avec un corps physique, et aussi de manière soudaine. Il revient pour prendre avec lui tous ceux qui ont choisi de le suivre, de marcher à sa suite, de le reconnaître comme Sauveur et Seigneur. Mais c'est vrai que ceux qui ont refusé de le suivre, malheureusement, ils seront jugés. Ils ne pourront pas vivre toute l'éternité avec lui. Alors une question aussi qu'on peut se poser, c'est « Mais quand Jésus reviendra-t-il » Dans la Bible, il y a plusieurs passages qui parlent des signes de la fin des temps. Cette période finalement entre l'ascension de Jésus, quand il est monté au ciel, et puis quand il reviendra. Donc finalement, on est dans cette période de la fin des temps. Et puis c'est vrai, quand Jésus reviendra, ça sera la fin de notre monde, tel que nous le connaissons. Dans Matthieu 24, les disciples déjà à l'époque, ils ont demandé à Jésus, « Quels seront les signes de ton retour ?» Alors moi, je vous encourage à le lire à la maison, ce chapitre de Matthieu 24. Dans l'Apocalypse aussi, dès le chapitre 6, il y a l'ouverture des sept sceaux qui annoncent de nombreux malheurs avant le retour de Christ. Ces signes, c'est vrai, ils ne sont pas réjouissants. C'est des guerres, des famines, des tremblements de terre, la persécution, la mort. Et puis, tout au bout, tout à la fin, il semble que le soleil, la lune changent, que des étoiles tomberont sur la terre. Donc, c'est vrai que ce n'est pas ce qu'il y a de plus réjouissant. Par contre, il y a un autre signe qui devrait nous réjouir. C'est que la bonne nouvelle sera proclamée à toute la création avant son retour. Ça, c'est un signe tellement important. Et jour après jour, je me suis dit, mais finalement, sur Internet, jour après jour, la bonne nouvelle, elle est aussi proclamée, elle est annoncée. Malgré ces signes, personne ne peut dire quand Jésus reviendra. Dans la parole, c'est clair, c'est marqué en Matthieu 24, 36, seulement le Père sait quand Jésus reviendra. D'ailleurs, ça m'a un peu étonnée, je me suis dit, comment ça se fait que Jésus, lui, il ne sait pas, ou que le Saint-Esprit, il ne sait pas. Normalement, dans la Trinité, ils sont tellement proches les uns des autres. Puis je me suis dit, mais peut-être que finalement, c'est comme pour montrer que c'est de nouveau le Père qui va envoyer son Fils. Il ne vient pas de lui-même, mais c'est vraiment le Père, à un moment donné, qui l'enverra. Alors, c'est vrai que beaucoup, ils ont essayé de donner une date, puis ils se sont tous trompés. Donc, personne ne sait vraiment quand il reviendra. On sait qu'il revient bientôt. C'est vrai que en même temps, réfléchissant face à tous les bouleversements qu'on vit actuellement, mais pas seulement cette épidémie, mais les changements climatiques, les guerres, l'augmentation du nombre de réfugiés, on se dit, mais il y a quand même assez peu d'espoir pour l'avenir. Au bout d'un moment, heureusement qu'on sait qu'à un moment donné, on ne sait pas quand, Jésus va revenir. Et Jésus qui revient, c'est le Créateur de la vie, c'est la vérité, c'est le Prince de la paix. Les textes qui parlent de son retour, ils nous disent aussi d'être vigilants, d'être prêts, de veiller. Finalement, je me suis dit, mais chaque génération se pose cette question. Est-ce que Jésus va revenir quand moi je serai là, quand moi je serai sur terre? Il y en a beaucoup qui se sont la posée, mais finalement, non. Et puis, c'est vrai, à chaque fois qu'il y a des guerres qui éclatent, à chaque fois qu'il y a des choses particulières qui arrivent, on se dit, bon tiens, est-ce que c'est encore un signe? Mais le plus important, c'est de se rappeler que Jésus, il est l'alpha et l'oméga. Lui, il est commencement et la fin. Il était là quand Dieu il a créé la terre, et il sera aussi là, et c'est lui qui sera là, justement, quand ça sera le moment de la fin. Ce ne sera pas les puissants, ce ne sera pas les gouvernements de notre monde, et heureusement. Mais pourquoi Jésus ne revient pas plus tôt? L'apôtre Pierre, il a déjà répondu à cette question. Il se l'est posé déjà à l'époque, quand même, parce qu'eux aussi croyaient que Jésus allait revenir de leur vivant, les disciples. Et puis il a dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Malgré, c'est vrai, toutes les souffrances dans le monde, on pourrait dire « Mais Seigneur, mais reviens !» Et puis lui, non, il fait preuve de patience, parce qu'il a aussi envie que les gens puissent encore le rencontrer. Mais je me suis dit, mais est-ce que c'est aussi notre désir, finalement, comme le Père, de faire connaître, de le faire connaître toujours plus? Ça me faisait penser, en fait, au prophète Jonas. Jonas, il a été appelé à Ninive, et puis on sait que il n'avait pas trop envie d'aller. Au lieu d'aller à Ninive, il a été juste à l'opposé. Et puis même, tout à la fin, finalement, il a été, mais tout à la fin encore, il est sous ce soleil, et il y a cette petite plante que Dieu fait pousser. Et il est tellement content qu'il y ait cette plante qui pousse. Et puis à la fin, il est fâché parce qu'elle est desséchée. Et il se fâche même contre Dieu. Puis Dieu, il lui dit, mais tu as eu pitié de cette plante qui t'a rien coûté. Alors moi, est-ce que j'aurais pas pitié de tous les gens de Ninive, ces 120 000 personnes? Alors moi, je pense, demandons vraiment à Dieu de nous accorder aussi cette compassion pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Pierre nous parle déjà de l'espérance, en fait, dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre 1, 3 à 21. C'est un long texte, j'avais envie de le lire avec vous. Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle, en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. C'est pourquoi ? C'est pour que nous ayons une espérance vivante, en attendant l'héritage que Dieu réserve aux siens. Cet héritage ne peut ni être détruit, ni sali. Il ne peut pas perdre son éclat. Dieu vous le réserve dans les cieux, à vous que sa puissance garde par la foi, en vue du salut, prêt à être révélé au moment de la fin. Débordez de joie, même s'il faut que maintenant, vous soyez attristés pour un peu de temps par des épreuves de toutes sortes. L'or lui-même, qui pourrait être détruit, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous recevrez la louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ se révélera. Vous l'aimez, Jésus, même sans l'avoir vu. Vous mettez votre foi en lui, même sans le voir encore. C'est pourquoi vous débordez d'une joie inexprimable, déjà glorieuse, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. Les prophètes ont fait des recherches et des études sérieuses au sujet de ce salut, et ils ont prophétisé à propos de la grâce que Dieu avait préparée pour vous. Ils s'efforçaient de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Car cet Esprit présent en eux annonçait d'avance les souffrances que le Christ devait subir et la gloire qui serait la sienne ensuite. Dieu révéla aux prophètes que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'il assurait ce service. Car ces choses vous ont été annoncées maintenant par les prédicateurs de la bonne nouvelle. Ils en ont parlé avec la puissance de l'Esprit Saint envoyé des cieux. Les anges eux-mêmes désirent y plonger leur regard. C'est pourquoi tenez-vous prêts. Gardez votre intelligence en éveil. Mettez votre espérance tout entière dans la grâce qui vous sera accordée quand Jésus-Christ se révélera. Obéissez à Dieu et ne vous conformez pas aux mauvais désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez encore ignorant. Mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelé est saint. En effet, l'Écriture déclare « Vous serez saints, car je suis saint ». Dans vos prières, vous donnez le nom de Père à Dieu, qui juge de manière équitable, selon ce que chaque personne a fait. C'est pourquoi durant le temps qu'il vous reste à séjourner sur la terre, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivré de la manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise. Je répète, vous savez en effet à quel prix vous avez été délivré de la manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise et qui ne menait à rien. Ce ne fut pas au moyen de choses périssables comme l'argent ou l'or. Non, vous avez été délivré par le sang précieux du Christ, comme celui d'un agneau sans défaut et sans tache. Dieu l'avait désigné pour cela avant même la création du monde. C'est pour vous qu'il l'a manifesté dans ces temps qui sont les derniers. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous pouvez placer votre foi et votre espérance en Dieu. Nous avons une espérance vivante. Car Christ, finalement, l'objet de notre foi, il est vivant. Et lui, il habite en nous par son esprit. De plus, nous pouvons compter sur ses promesses qui sont vraies et certaines. Jésus est avec nous. Jésus a vaincu la mort. Jésus va revenir. Mais en attendant sa venue, que pouvons-nous faire? Pierre nous invite à déborder de joie, car nous savons que bientôt Jésus sera là, même si on est attristé par des épreuves. Alors j'avoue que personnellement, c'est quand même un défi de rester dans une joie alors que tous les jours on voit ces nouvelles, on entend ce nombre de morts dans le monde qui augmente. Et puis rester centré sur Jésus, ben oui, c'est un défi chaque jour, de retourner à lui, de regarder plus loin que le présent, de regarder vers Jésus avec confiance. Car de toute façon, c'est Dieu qui aura le dernier mot. C'est lui qui nous prépare une place aussi dans sa maison. Et bientôt, nous serons avec lui dans son royaume. Jésus est là. Il est là avec nous ce matin. Le psaume 23 l'affirme. « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. » Jésus, il est présent à nos côtés, aujourd'hui ici à la Frate, dans votre salon, où que vous soyez, dans votre bureau. Et puis, il veut aussi nous accompagner à travers tout ce temps particulier. Nous pouvons compter sur sa présence, sur sa grâce, sur son amour. Pierre ajoute qu'à travers ces épreuves, notre foi, qui a beaucoup plus de valeur que l'or et l'argent, sera éprouvée. Alors méditons la parole pendant ces temps, afin que notre foi grandisse et qu'elle puisse être aussi affermie. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans ce texte, Pierre nous invite aussi à être prêts à agir, à garder notre intelligence en éveil, à mettre notre espérance en Jésus, à obéir à Dieu. Et si nous invoquons Dieu comme notre Père dans nos prières, alors que aussi notre conduite témoigne du respect que nous avons pour lui. C'est vrai que nous vivons des temps qui pourraient être considérés comme peut-être un signe aussi de la fin, mais on ne sait pas. Le plus important, je crois que c'est de rester centré sur Jésus. Et puis, on va être invité à rester de plus en plus à la maison, alors on peut faire des choix, on peut passer beaucoup de temps sur la télé, à regarder Netflix, des vidéos. Mais moi, j'avais envie de vous lancer un défi, c'était de peut-être vous dire, peut-être pendant ce temps particulier, je peux lire un livre biblique. Bon, c'est sûr que si c'est Jonas ou Ézéchiel, ce ne sera pas tout à fait le même défi, mais quel que soit le défi, pourquoi pas aussi prendre du temps pour lire la Bible, pour prier, pour se recentrer sur l'essentiel. Jésus revient bientôt. Et j'aimerais prier. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que nous pouvons compter sur toi. Nous pouvons lever les yeux vers toi. Merci parce que tu es à nos côtés, Seigneur. Et j'ai aussi envie de prier, Seigneur, pour toute personne de la Frate, pour toute notre Église. Seigneur, garde-nous unis ensemble. Garde-nous, Seigneur, solidaires les uns avec les autres. Donne-nous, Seigneur, de prier, de regarder à toi, Seigneur. On veut t'apporter aussi toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les soins à domicile. Seigneur, protège-les, renouvelle leur force. On t'apporte aussi toutes les personnes qui sont dans la politique, le Conseil fédéral, tous ceux qui doivent prendre des décisions. Donne-leur ta sagesse de prendre les bonnes décisions au bon moment. Seigneur, merci parce que tu es là avec nous. Et nous pouvons nous réjouir, Seigneur, de compter sur toi. Béni soit ton nom, Jésus. Amen.